Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le psaume 32 et au verset 1er. Psaume 32, verset 1er, nous allons partager sur le sujet de la confession des péchés. Si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, donc on a parlé sur l'autorité spirituelle. Et j'avais pensé qu'on aborderait ce thème de l'autorité. C'est un sujet important. On a vu d'abord Jésus. Qui avait bien sûr une grande autorité. On a vu 2 choses concernant Jésus, qu'il avait une autorité spirituelle quand il enseignait, puis une autorité aussi quand il commandait aux démons. On a vu l'exemple d'un homme qui a été délivré en plein dans une synagogue. Concernant Jésus, bien sûr, on pourrait dire aussi qu'il a autorité dans toutes ses actions. On a vu qu'il a purifié le temple, on a vu que les pharisiens lui ont demandé « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Cette autorité venait d'en haut, c'était l'autorité divine. Jésus a ressuscité les morts, Jésus a guéri les malades, tout ça avec autorité spirituelle. Mais ce n'est pas tout, on a juste dit la dernière fois que le Seigneur voulait que nous-mêmes, nous exercions une autorité spirituelle. C'est le principe de la délégation, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons faire quoi que ce soit, mais Jésus nous a dit, allez chasser les démons, allez purifier les lépreux, allez ressusciter les morts, allez guérir les malades. Comment pouvons-nous faire cela si ce n'est avec l'autorité spirituelle déléguée par Jésus? Donc tout ça, on l'a légèrement évoqué la semaine dernière, mais j'aimerais revenir un petit peu au préalable à l'exercice de l'autorité spirituelle. Quelles sont les conditions? Bien sûr, il faut être né de nouveau, c'est évident, croyant. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais voir avec vous 5 conditions préalables à l'exercice de l'autorité spirituelle indépendamment des choses évidentes. La première, c'est la confession des péchés, c'est ce que nous allons voir maintenant. La deuxième, la repentance. La troisième, c'est le pardon. La quatrième, c'est la foi. Et la cinquième, c'est l'obéissance. Ces 5 éléments sont nécessaires pour que nous puissions avancer dans l'autorité spirituelle. Alors, 5 aspects, on se rend compte que... L'autorité spirituelle ne vient pas de l'apparence, ne vient pas d'un vêtement ou d'une voix ou même d'un ton de voix, parce que Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur d'abord, mais il regarde au cœur et il s'intéresse à l'intérieur de notre âme. Les démons ne craignent pas l'extérieur d'une personne, ils ne craignent pas le titre d'une personne, ils ne craignent même pas son nom. Ce qu'ils craignent, c'est la présence de Jésus, la personne de Jésus, et il est important que nous ayons Jésus dans notre cœur. Les démons savent très bien si un chrétien est sincère ou pas. On dit toujours que Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est vrai pour Dieu, mais c'est vrai aussi pour le diable. Ça, on oublie d'y penser, mais on ne peut pas tromper le diable. Vous connaissez cet exemple des 7 fils de Séva, qui avaient pourtant sur leur carte de visite, ils étaient exorcistes, c'était leur spécialité de chasser les démons. Ils étaient juifs et ils allaient, alors ils essayaient au nom de Jésus que Paul prêche, ils chassaient les démons comme cela. Et pourtant, le démon ne partait pas. Pourquoi? Parce que le démon ne se fixait pas à leur titre ou à leur carte de visite, mais savoir s'ils avaient une autorité ou pas d'autorité. En l'occurrence, ils n'avaient pas d'autorité spirituelle, malgré qu'ils avaient un titre. Donc c'était plus important, c'est à la fois important pour Dieu, mais c'est aussi important pour les puissances spirituelles qui ne sont soumises qu'à une autorité spirituelle. Donc ces juifs n'ont pas pu chasser les démons, ils ont même été frappés, malmenés par le possédé. Finalement, ils n'ont pas eu de succès. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas une réelle relation avec Jésus, ils n'avaient pas cette autorité spirituelle et Jésus ne les avait pas envoyés faire ce travail. Donc... on voit que si Dieu ne regarde pas l'apparence mais il regarde au cœur, on voit que les puissances spirituelles aussi ne se laissent pas berner. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien ou avec un certain titre qu'il va pouvoir faire telle ou telle chose, mais c'est s'il a une autorité ou pas qui vient de Dieu. Alors voilà pourquoi Jésus s'intéresse tellement à notre vie intérieure. Et si nous mettons vraiment en pratique ces aspects, on va en voir juste un aujourd'hui, la confession des péchés. On va voir que ça va plaire à Dieu d'un côté, c'est vrai que Dieu l'attend de nous et il va ainsi nous accorder son onction, son autorité. Mais d'un autre côté, ça va déplaire à l'adversaire parce que si quelqu'un confesse ses péchés, l'ennemi aussi le voit. Et cela, pour lui, crée, ça devient gênant, ça devient quelqu'un qui va devenir dangereux pour son royaume. Alors, on va lire ce psaume, hein, juste les 5 premiers versets, le psaume 32, pour introduire ce sujet, la confession des péchés. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Alors le mot confession dans la parole de Dieu a un double sens. Dans une première partie, on va voir qu'est-ce que la confession des péchés. Le mot confession est utilisé à la fois pour confesser quand on dit qu'on proclame que Jésus est Seigneur, on le chante même, je confesse que Jésus est Seigneur. Et le mot confesser est utilisé dans ce sens-là dans la parole de Dieu à de nombreuses reprises. Donc on proclame une vérité, on confesse notre foi, on confesse que l'on aime Jésus, que l'on donne notre vie au Seigneur, etc. Et puis il y a un autre aspect du mot confesser, qui est celui que nous allons étudier, c'est d'avouer les fautes que l'on a commises à Dieu. C'est aussi le même mot, c'est confesser. Et quand on parle de confession des péchés, il ne s'agit pas de liturgie, parce que dans certaines religions, il y a comme des jours de confession, je pense particulièrement chez les Juifs, il y a le jour des expiations, où on va confesser ses péchés, mais de manière liturgique, sans vraiment forcément le réaliser pour tous en tout cas. Ça existe aussi dans la religion catholique, lorsque on va se confesser une fois par an, au prêtre pour avoir l'absolution des péchés, mais on le fait, bien des gens le font d'une manière, quand ils le font, tout le monde ne le fait pas, mais d'une manière, on va dire, religieuse, liturgique, et ce n'est pas ainsi que Dieu entend la confession des péchés. Il ne s'agit donc pas de liturgie. Toute confession superficielle, sous la contrainte, n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ça ne va rien produire. C'est un petit peu comme si on allait semer du blé sur une route goudronnée. Ça ne va rien produire du tout, ça ne va pas changer les choses, ça n'est même pas la confession que Dieu attend. La confession vient du cœur, la confession doit être sincère, et ce n'est pas si facile de confesser ses péchés. Il faut reconnaître tout le mal qu'on a fait devant Dieu. Alors quand on regarde quelques exemples dans la Bible, on voit que ce n'est pas si facile. Je pense à Adam et Ève, lorsqu'ils ont été mis devant le fait accompli qu'ils avaient péché. Eh bien, Adam a tout fait pour se disculper. Vous savez qu'il a accusé sa femme, il a accusé Dieu qui avait mis cette femme à côté de lui. Enfin, il a pas voulu confesser son péché. La femme, pas plus que Adam. Il y a en nous, depuis comme nous sommes nés pécheurs, il y a en nous toute une nature qui résiste à la confession des péchés. Nous ne voulons pas avouer à Dieu nos fautes. Au fond de nous-mêmes, il y a cette pensée qui dit « mais finalement, tu n'es pas si mal que ça, les autres font pire que toi, et puis d'autres, ils commettent encore d'autres péchés, etc. » Et on se met des sortes de parapluies pour se voiler la face. Donc, tout cela, il nous faut nous en débarrasser. Il y a deux choses importantes à considérer. Premièrement, que le péché, c'est toujours quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Quel que soit le péché, c'est mal. Et nous devons pas minimiser le péché. Deuxième chose que nous devons considérer, c'est que Dieu voit tout, il entend tout et il sait tout. Alors quelqu'un fait quelque chose dans le secret, il pense que personne ne l'a vu, mais il a un débit auprès de Dieu, Dieu a vu quelque chose et c'est sur son compte. Et tant qu'il n'aura pas confessé cela, eh bien ça restera une entrave entre lui et Dieu. Alors quand on croit que l'on peut vivre en cachant quelque chose à Dieu, c'est de la pure folie. Hein, c'est arrivé à David. Il avait commis cet adultère et puis ce meurtre avec Uri, et puis il faisait comme si de rien n'était, et puis Dieu avait tout vu, bien sûr. Et la Bible dit que cela avait déplu, ce qu'avait fait David avait déplu à l'Éternel. Donc c'était resté entre lui et Dieu un problème qui n'était pas résolu jusqu'à ce qu'il reconnaisse son péché. Il y a eu tout un temps comme cela, il a fallu qu'un prophète vienne pour démasquer la situation, mais tant que la confession n'était pas faite, David avait un sérieux problème avec Dieu qui n'était pas résolu. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que devant Dieu ce matin, nous sommes transparents. Il voit dans nos cœurs comme au travers de l'eau. Quand Jésus voyait par exemple des pharisiens qui avaient bonne mine devant lui, qui venaient pour lui poser des questions, ou même auprès de ses disciples, la Bible dit que Jésus voyait leurs pensées, Jésus voyait leur cœur. Donc devant Dieu, on ne peut pas tricher, on ne peut pas se cacher derrière quelque chose et on ne peut pas mentir. Mais il y en a quand même essayé devant Jésus. Ils venaient vers Jésus, mais à l'intérieur, ils avaient des pensées mauvaises à son égard. Mais on ne peut pas le faire. Ils étaient dévoilés, ils étaient démasqués, et il a fallu que le Seigneur leur dise « Pourquoi as-tu de telles pensées dans ton cœur ?» Donc, la seule issue, frères et sœurs, c'est de confesser nos péchés. On reconnaît que le péché, c'est grave aux yeux de Dieu. On reconnaît que Dieu sait tout, qu'il voit tout, qu'on ne peut rien lui cacher. Alors, la seule issue, c'est de dire « Seigneur, voilà, il y a des choses dans ma vie, je veux les confesser, je veux te demander pardon parce que tout cela n'est pas de toi, ce n'est pas à ta gloire. » Il y a un proverbe arabe qui dit ceci, « Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. » Pour montrer que Dieu voit tout et Dieu sait tout. Voilà, premier point donc, qu'est-ce que la confession des péchés? On a dit, c'est quelque chose qui vient du cœur, ce n'est pas une liturgie. Ensuite, à qui doit-on confesser ses péchés? Je reviens à notre texte. La première personne à qui on doit confesser nos péchés, c'est Dieu. C'est écrit au verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc c'est à Dieu que nous devons confesser nos péchés. C'est confirmé dans la parole à d'autres reprises. Je vous citerai deux autres versets. Esdras chapitre 10 verset 11. « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté, séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. » Confessez à l'Éternel votre faute. Et puis au psaume 51, c'est le psaume de David, quand il a reconnu son péché avec Bathsheba, il dit, verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voilà quelques exemples, il y en a d'abondants versets qui nous montrent que nous devons confesser nos péchés à Dieu. On doit tout lui avouer, sans rien cacher, et dire tout le mal qu'on a fait, et que c'était nous le responsable. Si vous voulez, quand David exprime ça au psaume 51, il ne va pas se réfugier derrière quelqu'un, où il ne va pas accuser la société, il ne va pas accuser une autre personne de l'avoir poussé à, il dit qu'il reconnaît sa faute et qu'il se sent coupable et responsable de son péché. C'est ça, la confession des péchés, c'est accepter notre responsabilité dans le mal que l'on a fait. Alors, vous allez peut-être poser la question, mais à quoi cela sert-il finalement de confesser nos péchés, d'avouer à Dieu des choses que finalement il sait déjà? Est-ce que Dieu l'ignore tout cela? Il ne l'ignore pas. Et pourtant, il faut quand même confesser. Alors à quoi ça sert? Ce n'est pas pour informer Dieu de toute manière qu'on confesse nos péchés, puisque Dieu le sait, il nous a vus, il nous a entendus, donc ce n'est pas le but. Le but de la confession des péchés, c'est de nous humilier devant le Seigneur, qui sait tout, qui voit tout, de reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes, de reconnaître que nous sommes pécheurs, séparés de Dieu à cause de nos péchés, et c'est d'exprimer avec des mots tout le mal qu'on a pu commettre. Le mot confesser, c'est le verbe en grec homologeo, qui signifie dire la même chose, ne pas contester, admettre. Homologeo. Donc nous voulons admettre la vérité. Nous ne voulons pas contester et nous cacher derrière quelqu'un ou quelque chose, mais reconnaître que c'est vrai, c'est moi qui ai péché, c'est pas un autre, c'est de ma faute et je reconnais mes torts. Alors c'est nécessaire de confesser, pourquoi? Ça permet de restaurer la relation entre nous et Dieu. Je vous donne l'exemple simple du mariage. Dans un couple, un conjoint va faire quelque chose derrière le dos de l'autre. Il pense que ça ne va jamais être dévoilé. Mais un jour, la chose est découverte. Ainsi, que se passe-t-il? Soit le conjoint ment et il dit « j'ai jamais fait ça, c'est pas vrai », etc. Et il essaye de se protéger pour s'en sortir. Soit il avoue la vérité, il confesse sa faute et il demande pardon. Et ainsi, la relation du couple peut être restaurée, la confiance est rétablie. Mais s'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de restauration possible. Ainsi, avec Dieu, on est en quelque sorte dans une alliance. Quand on a décidé de le suivre, on l'a chanté, « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître », on a fait alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec nous. C'est un peu l'image du mariage, c'est comme ça dans la parole de Dieu. Et on veut le suivre jusqu'à notre mort. Si, alors, je ne vais pas dire que du côté de Dieu, ça va bouger parce que Dieu est infaillible. Dieu ne commet jamais de péché, il ne fait pas de faute. La défaillance ne peut pas venir d'en haut. Donc, le problème, il vient de nous. Si nous faisons quelque chose, entre guillemets, derrière le dos de Dieu, nous savons que ce n'est pas bien. Nous brisons l'alliance que nous avons contractée et il y a un problème entre nous et Dieu. Si nous péchons, on pense que Dieu n'a pas vu, mais Dieu a vu. Et seule la confession sincère va permettre de restaurer l'alliance. Donc on comprend que la confession est indispensable pour que notre relation avec Dieu soit nette et soit purifiée de toutes ces scories qui peuvent se greffer avec les péchés non confessés. Première personne à qui nous devons confesser nos péchés, Dieu. Mais ce n'est pas tout. On va lire dans Luc chapitre 15, verset 18. Nous devons confesser nos péchés à la personne que nous avons offensée. Luc 15, 18, on a un bel exemple ici, c'est l'histoire du fils prodigue. Certainement vous l'avez déjà lu, on ne va pas la lire en entier, mais juste ce passage où il nous montre que le fils va demander pardon non seulement à Dieu, mais à son père. Alors, pour résumer l'histoire, bien sûr, c'est un jeune homme qui vivait chez ses parents et puis qui un jour a demandé sa part d'héritage. Il est parti avec tout l'argent donc, qui lui revenait, vivre dans un pays très loin de sa famille pour être tranquille, et il a vécu d'une manière païenne, alors qu'il avait été élevé dans les voies de Dieu. Il a vécu dans la débauche, dit la Bible, dans une sorte de dépense d'argent inconsidérée, et puis dans la folie des relations sexuelles hors mariage, la débauche c'est cela. Et puis il a dilapidé tout son argent. Et un jour, la famine est survenue, il n'avait plus rien à manger, personne ne voulait l'aider. Bien sûr, il n'avait plus d'argent, plus d'amis. Il s'est retrouvé à chercher du travail. Le seul travail qu'on lui a proposé, c'est de garder des pourceaux, chose qui, pour un juif, c'est une honte suprême, mais il l'a fait quand même. C'était des animaux considérés comme impurs, et donc, parce qu'il avait besoin d'argent, il l'a fait. Et puis, c'est dans cet état de déchéance, parce qu'on voit dans le récit que petit à petit, il s'enfonce de plus en plus, et quand il est au plus bas, et que même le peu qu'il gagne, ça ne lui suffit même pas pour manger, il voit la nourriture des cochons, il a envie de manger la nourriture des cochons. À ce moment-là, il rentre en lui-même, Luc 15, verset 18, et il dit ceci, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On sait qu'à cet instant-là, le père le coupe, il n'a pas le temps de finir sa phrase. Il avait prévu de lui dire encore, « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais le père, tout de suite, le pardonne et l'accueille dans sa maison. Alors, le fils a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il était sur une voie de mort, sans issue, c'était la voie du péché, et il ne pouvait pas se contenter, voyez-vous, de confesser ses fautes à Dieu. Bien sûr, il l'a fait. Il se tourne vers le Seigneur dans un premier temps, et il dit, voilà, j'ai péché contre le ciel. Bon, le ciel, c'est contre Dieu. Donc, il reconnaît que, à la base, il a péché contre Dieu, c'est toujours nécessaire, comme on l'a dit, la première personne à qui on doit confesser ses péchés, c'est Dieu. Mais il n'en est pas resté là, il a eu le courage d'aller jusque vers son père et de reconnaître ses fautes devant son père, et de dire, son père, j'ai péché contre toi. Et en effet, il était parti fier de la maison et il va revenir humilié. Il sait qu'il a mal parlé à son père. Ce n'est pas normal de parler comme ça à son père, de demander l'héritage avant son décès et de faire n'importe quoi avec l'argent. Il a vécu comme un païen. Son père avait prévu pour lui autre chose. En tant que juif, il s'était souillé avec des animaux impurs. Donc tout ça, il fallait le confesser. Il fallait demander pardon pour tout le mal qu'il avait fait. Et je pense que le diable a tout fait pour empêcher ce jeune homme de confesser son péché à son père, en lui disant, mais écoute, tu l'as confessé à Dieu, ça suffit, t'as qu'à rester comme ça, si ton père est croyant, eh ben il te pardonnera. Voyez, il veut surtout pas, l'ennemi, que vous alliez confesser le mal à un frère, à une sœur, quand vous lui avez fait. Alors ne vous laissez pas avoir, parce que l'accusateur va vous tenir comme ça, lié. La confession va permettre un pardon total et immédiat. Et vous avez vu que la relation entre le père et le fils a été complètement restaurée. Ça, c'est un miracle, mais c'était nécessaire de passer par la confession, parce que le fils aurait pu dire, tiens, je vais aller voir mon père, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela, et puis dire, bah, je le ferai demain, et repousser, et repousser, et repousser, et puis finalement ne jamais y aller. Mais il y a un moment donné où, pour confesser nos péchés, il faut le faire. Il faut aller voir la personne et lui parler pour que la restauration soit faite dans les cœurs. D'autres exemples, à part Luc, vous avez dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 5 verset 16, Jacques nous dit d'avoir la même relation entre frères et sœurs que cet exemple entre père et fils. Jacques dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. » Confessez vos péchés les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un frère ou une sœur a un différend avec un frère ou une autre sœur et qu'il y a des péchés qui ont été commis à son égard, il va falloir le confesser, il va falloir demander pardon. Alors on se dit, mais comment c'est possible que dans l'Église, il y ait besoin de confesser des péchés? L'Église, on a dit, c'est un lieu saint, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu fraternel, il ne doit pas y avoir de péché. Alors s'il n'y a pas de péché, à quoi ça sert que Jacques a dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Oui, dans l'Église, malgré tout, il y a encore des critiques d'un frère dans son dos. Il y a encore des jugements qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a encore des vérités qui sont déformées. Ça s'appelle du mensonge. Il y a encore des calomnies qui sont propagées. Et ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Toutes ces choses, Dieu les entend, Dieu les voit, Dieu connaît nos cœurs. On est transparent devant lui, et ça n'est pas à la gloire de Dieu, ça doit être confessé. Il ne faut pas croire, vous savez, que les choses vont s'arranger comme ça tranquillement. On est chrétien, on est frère, on est sœur. Avec le temps, tout va aller de soi. C'est pas vrai. On voit que dans la Bible, il y a des principes, il y a la confession des péchés. Quand on a fait tort à quelqu'un, Dieu ne nous demande pas simplement de prier et de confesser ses péchés, il nous demande d'agir. Il y a une différence entre prier et agir. Prier, c'est important. Et on ne peut pas l'enlever. Demander pardon à Dieu, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu nous demande maintenant, tu te lèves, tu vas voir ton frère, tu vas voir ta sœur, tu reconnais ta faute et tu lui demandes pardon. Ça, c'est agir. Et c'est là où bien souvent, frères et sœurs, nous sommes très lents à mettre en action la parole de Dieu. Et bien souvent, ça crée des climats difficiles. On a vu le fils prodigue, on a vu Jacques, nous recommande de confesser nos péchés. Et puis, je pense à Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 23. On va le lire. Car Jésus traite de ce problème-là, et vous allez remarquer qu'il, pour lui, c'est un problème qu'il faut traiter rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de ce que tu n'es payé le dernier cadran. Alors, Jésus nous demande d'agir sans tarder. Promptement, de ne pas remettre à demain. Alors pourquoi un frère aurait quelque chose contre moi? Il est dit ici, si ton frère a quelque chose contre toi, peut-être parce que c'est moi qui lui ai fait du tort et lui il a quelque chose contre moi. Et ainsi je dois, moi, aller réparer ce tort. Ça ne sert à rien de prier, Jésus le dit, ça ne sert à rien de faire des aumônes, ça ne sert à rien d'avoir une liturgie chrétienne. Tant que le problème n'est pas réparé, on va dire que le débit reste aux yeux de Dieu, donc il y a un découvert qui est là. Et Dieu nous demande de le régler. Quand on adore Dieu, on l'a fait ce matin, on loue le Seigneur et c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce que Dieu regarde nos lèvres? Il regarde notre cœur et il voit, celui-là il me loue, celle-là me loue, mais ce différend n'est pas réglé. Voyez, et sa louange n'a pas accès au trône de Dieu, parce qu'il y a un débit céleste qui n'est pas réglé tant qu'on n'a pas confessé son péché. Alors c'est vrai que les louanges que nous disons, l'adoration que nous faisons monter vers Dieu, elle n'est approuvée de Dieu que si notre cœur est sincère, si ça provient d'un cœur qui n'a pas résolu des choses devant la face de Dieu, ben, le Seigneur n'approuve pas ni nos offrandes, ni notre adoration. Pourquoi Jésus insiste sur l'instantané? Vous avez remarqué, il dit là, tu es là devant l'autel, tu as une offrande. Ne la porte même pas, tu la laisses de côté, tu vas d'abord te réconcilier, tu reviendras après apporter ton offrande. Pourquoi est-ce que Jésus insiste? Parce que tout en nous nous dit, tu vas attendre demain, tu vas passer la nuit, tu verras plus tard. Mais Jésus nous dit le contraire. Il nous dit, c'est maintenant qu'il faut régler les situations. Fais-le de suite. Jésus nous dit, et après, j'agréerai tes offrandes. Après, j'agréerai tes louanges. Après, j'agréerai ton adoration. Mais fais d'abord ce que tu dois faire. Non seulement c'est tout bénéfice, pour deux raisons. D'abord, c'est bénéfice parce que la relation avec le frère va changer. Il va y avoir une réconciliation. Et puis, c'est bénéfice parce que la relation avec Dieu aussi est approuvée, puisque Jésus dit, les offrandes vont être agréées ensuite. Donc, vous voyez qu'on a tout intérêt à confesser son péché pour la relation, on va dire, latérale, et puis pour la relation verticale. Enfin, dans les nombres, il est question de restitution proportionnelle. On peut lire ce texte dans Nombre chapitre 5, verset 6. Nombre chapitre 5 et le verset 6. « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième, et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. » Non seulement il y a confession des péchés, mais il y a aussi restitution du mal qui a été fait. Par exemple, dans le cas d'un vol, Dieu demande d'avouer bien sûr que l'on a volé, mais aussi de rendre ou de rembourser, voire même de rembourser avec intérêt, puisqu'il est question d'y ajouter un cinquième. Donc, tout cela s'est bien expliqué dans la parole. Le Seigneur désire que nous vivions dans la droiture, dans la vérité et pas dans la magouille. J'entendais ce témoignage il y a quelque temps de Saïd Oujibou, qui est un frère qu'on va recevoir au mois de novembre, qui est un musulman qui s'est converti à Christ. Et lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur, il explique, je ne vous raconterai pas son témoignage, il est là peut-être, il vous le racontera, mais un des éléments qui m'a marqué, c'est qu'il s'est rappelé, Dieu lui a remis en mémoire qu'il avait commis un vol. Qu'il avait commis un vol auprès de sa maîtresse, c'était pas bien grosse somme, peut-être 15 euros, quelque chose comme ça. Et puis le Seigneur lui a demandé de restituer ainsi, de demander pardon. Alors, tout honteux, il est retourné vers sa maîtresse, qu'il avait dérobée sans qu'elle le sache, et puis il est venu lui avouer sa faute, et puis il lui a rendu... Alors, il disait que la maîtresse l'a regardé avec des yeux ronds comme des billes, parce qu'elle n'avait jamais vu un arabe rendre de l'argent. C'est lui qui le dit, hein, c'était lui. Alors, et c'est vrai qu'il était voleur et que petit à petit, il a dû réparer tout le tort qu'il avait pu commettre. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait dire. Mais il ne s'agit pas simplement de voler les gens. Que dire de ceux qui trompent Dieu et qui volent Dieu? Si vous lisez Malachie, chapitre 3, verset 8, vous verrez que Dieu considère que ceux qui trompent sont comme des voleurs à son égard. Ceux qui le trompent dans les dîmes, dans les offrandes, je ferme la parenthèse. Troisième personne à qui on confesse ses péchés, on a dit à Dieu, on a dit à la personne à qui on a fait du tort, et on a dit aussi à, on peut dire aussi dans Matthieu chapitre 3 verset 5, confesser d'une manière publique, comme un témoignage. Ici, il est question de ceux qui vont se faire baptiser et qui confessaient leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que, avant de rencontrer Jésus, ils vivaient d'une manière non conforme à ce que Dieu demande. C'est dans Matthieu 3, 5, vous pouvez juste noter la référence si ça vous intéresse, mais je voulais lire acte 19 plutôt, acte 19, 18, où là vous avez une belle confession aussi, publique. Donc il s'agit de gens qui découvrent la parole de Dieu, ils se rendent compte que leur vie n'est pas conforme à ce que Dieu demande. Et voyez, regardez, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estima leur valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc il y avait des confessions, on reconnaissait que c'était mal, ça servait à rendre un témoignage à la puissance de transformation de Dieu. Effectivement, on peut dire qu'on est chrétien, mais surtout le témoignage que l'on donne, c'est que Dieu nous a changés. On avait des idoles, on avait une manière de vivre qui n'était pas à la gloire de Dieu, et tout cela maintenant on le regarde comme de la boue. Tout ce que le monde admire, ce sont des idoles, c'est de l'idolâtrie. Je pense à l'occultisme, parce que là c'est cité, vous voyez, les arts magiques, il y avait des gens qui avaient des livres de magie noire, de choses occultes. Ben, ils croyaient que c'était bon, et quand ils se sont convertis à Dieu, tout ça ils ont considéré que c'était mauvais, à tel point qu'ils n'ont pas voulu le redonner à d'autres personnes, mais qu'ils l'ont brûlé, ou on le jette à la poubelle, ou on s'en débarrasse. Et ça c'est nécessaire, quand on confesse ses péchés, de se débarrasser de ce qui est occulte, de ce qui est néfaste dans la maison. Tout ce qui est mauvais, je pense à ces films, ou même dans les bibliothèques, vous savez qu'on a intérêt à faire un grand nettoyage sérieux de tout ce qui chez nous n'est pas la gloire de Dieu. Et il y en a des choses peut-être qu'on traîne comme ça, oh, on les laisse là tranquille. Tous ces films de Harry Potter et toutes ces choses à la gloire de l'occultisme, tout cela n'a rien à faire dans la vie d'une famille chrétienne. Moi je vous dis mon sentiment, je pense que ce sont des choses qui sont à la gloire de l'ennemi, à la gloire de l'adversaire. Déjà, les voir, c'est grave, mais en plus de les conserver, d'avoir ça chez soi, soit de la littérature, soit des films, voir des films d'horreur ou des films érotiques ou des choses comme ça qui sont à la gloire de l'adversaire, tout cela doit disparaître de nos demeures, toute littérature, tout livre qui n'est pas la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de les donner à quelqu'un d'autre, il s'agit de les détruire et de s'en débarrasser. C'est comme ça que faisaient les premiers chrétiens, ils confessaient leurs péchés et ils se débarrassaient des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu dans leur maison. Et là, frères et sœurs, faites ce travail consciencieusement, c'est important. Troisième partie, c'est les conséquences de la non-confession des péchés. Donc on a dit à qui est-ce qu'on doit confesser nos péchés, on a vu à Dieu, on a vu à la personne à qui on a fait du tort, et puis on confesse nos péchés de manière publique pour rendre témoignage du changement que Dieu a opéré en nous. Maintenant, je reviens au psaume 32 qu'on a lu tout à l'heure. Vous avez remarqué au début du psaume, David exprime sa souffrance parce que justement il s'est tu, il n'a pas confessé son péché. Et ça me semble être un point important parce que quand on ne veut pas confesser son péché, on va souffrir. Ce psaume décrit le mal que le pécheur se fait à lui-même lorsqu'il retient son péché. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si facile de confesser son péché parce qu'on a peur de tout perdre. On a peur pour notre réputation, et qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On a peur d'être rejeté, est-ce que l'autre va me pardonner, est-ce qu'il va m'accepter? On pense qu'on va souffrir si on dit toute la vérité, et donc il vaut mieux se taire et garder les péchés secrets. Eh bien, c'est là encore un mensonge du diable qui préfère le mensonge à la vérité. Et si nous préférons le mensonge à la vérité, alors c'est sûr que nous ne sommes pas droits devant Dieu. Au contraire, en fait, on va souffrir, et je reviens au psaume 32, regardez, on va souffrir lorsque l'on refuse d'avouer ses péchés. Alors c'est au verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Elle n'a pas voulu avouer son péché. Alors il l'a enfoui au plus profond de lui-même, dans son subconscient, et puis il a mis une pierre dessus pour que plus jamais on retourne par là. Mais le problème, c'est que ce péché entériné à l'intérieur, il a commencé à faire de la gangrène, à se développer et à toucher le corps de la personne. Le péché lui a fait du mal, un petit peu comme un feu dans les os, un feu intérieur qui le détruit, qui le fait souffrir de plus en plus. Et tout ce qu'on refoule comme ça à l'intérieur, tant que je me suis tout, tôt ou tard, ça va ressortir à l'extérieur, ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et probablement si on ne veut pas l'avouer, ben ça va ressortir et ça va faire très mal. Donc, le Seigneur nous dit, au contraire, confesse ton péché et ne le retiens pas à l'intérieur, sinon tes os ils vont se consumer. Ensuite, deuxième chose qu'on voit dans ce psaume, je gémissais toute la journée. Des gémissements parce que le moral est attaqué, parce que la personne est découragée. Et on le voit qu'il y a des personnes, elles ont tout pour être heureuses. Et elles ne savent pas pourquoi elles sont malheureuses, elles ne savent pas pourquoi il y a un problème, mais c'est parce qu'il y a un problème dans leur cœur, il y a un problème dans l'âme qui n'est pas réglé. Ce monde et ses plaisirs ne peuvent pas procurer le vrai bonheur. On le voit au début du psaume, le bonheur se trouve en Dieu. Verset 2 par exemple, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Cet homme est heureux parce qu'il a une relation nette avec Dieu, parce qu'il a été pardonné de ses péchés. Les eaux sont consumées, les gémissements toute la journée. Troisième point, la main pesante de Dieu. Ta main était sur moi. Ta main s'appesantissait sur moi. Alors, la main de Dieu, bien sûr, la main de Dieu, elle nous a sauvés. Il nous a retirés du péché. Il a étendu sa main d'en haut et nous a sauvés. Son bras n'est pas trop court. Donc, on sait que la main de Dieu, c'est bon, c'est positif. Mais pour celui qui ne confesse pas son péché, la main de Dieu va devenir une source de tourment. Ce n'est pas une main qui va bénir, c'est une main qui va être pesante. Vous voyez la différence ? Donc, moi, si je refuse de confesser mon péché, je vais avoir un problème avec Dieu. Et si Dieu se met à lever sa main contre moi, qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis perdu. Si 10 000 sont contre moi, mais que Dieu est avec moi, je suis vainqueur. Mais s'il y a 10 000 avec moi, mais que je suis contre Dieu, sa main est pesante sur moi, je suis perdu. Je suis perdu. C'est pas le nombre qui fait la force, c'est la relation avec Dieu. Et puis enfin, quatrième chose qui est mentionnée, c'est la perte de toute vigueur, puisque David dit « Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été ». Donc il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie, il est fatigué, il ne peut plus rien faire pour Dieu. Il est en train de sombrer finalement dans la dépression, même le sommeil ne lui apporte pas de repos compensateur. Ma vigueur, il ne l'a plus. Pourquoi ? Parce que même la nuit, sa conscience l'agite et ne le laisse pas tranquille tant qu'il n'a pas confessé son péché. Alors il a tenu un temps comme ça, tant que je me suis tu. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais il a commencé à voir en lui tous les méfaits qui se produisaient dans son être pour le détruire. Et je voulais terminer, après avoir vu les conséquences pour celui qui refuse de confesser son péché, la seule condition de pardon. Et on a un dernier texte dans 1 Jean 1,8 qui nous parle de la confession toujours de son péché. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La confession des péchés doit provenir d'une libre décision. On a toujours la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. D'ailleurs, ici Jean, vous avez remarqué, il prend les deux possibilités. Si nous disons qu'on n'a pas de péché, ça veut dire moi je refuse de confesser mes péchés. Donc c'est un cas de figure possible. Mais il dit le deuxième cas de figure, c'est le verset 9, « Si nous confessons nos péchés ». Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les deux existent. Certains refusent de confesser leurs péchés, estimant qu'ils n'ont rien fait de mal. « C'est pas de ma faute, et moi j'ai rien à confesser ». C'est tout à fait le type de comportement du pharisien dans le temple. Quand, voyez, vous connaissez cette parabole, vous avez dans le même temple un pharisien et un publicain qui font deux prières. Et puis Jésus dit la prière du pharisien, c'est « Ô Dieu, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, c'est-à-dire avares, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. Moi je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors Dieu, il entend cette prière, mais il voit aussi le cœur de cet homme. Et le cœur de cet homme, c'est que lui, il s'estime juste. Il dit qu'il n'est pas avare, mais peut-être qu'il donne sa dîme, c'est vrai, il donne à Dieu ses revenus, mais il ne le fait peut-être pas d'un cœur comme Dieu le veut, il le fait sous la contrainte ou d'une manière qui n'est pas droite devant Dieu. Il dit qu'il n'est pas injuste, mais il a peut-être menti, il a peut-être fait certaines choses pour couvrir des situations, mais Dieu l'a vu. Il dit qu'il n'est pas adultère, certainement, qu'il n'a pas commis l'adultère, mais peut-être en pensée, il a eu des envies avec telle ou telle, avec une femme ou avec un homme. Si c'est une femme, c'est avec un homme. Si c'est un homme, avec une femme. Et Dieu l'a vu. Et il a vu que dans son cœur, il y avait un problème. Même s'il n'a pas commis, il a un problème qui n'est pas résolu avec Dieu, parce que Jésus l'a dit, que celui qui convoite une femme, il a commis l'adultère dans son cœur. Et tant qu'il n'a pas réglé ce problème-là, il faut que ça soit aplani devant Dieu. Donc cet homme qui prie comme ça, Dieu entend sa prière, mais c'est que des mots. Il voit la réalité du cœur qui n'est pas la même, parce que dans son cœur, il y a des péchés non confessés. Et en fait, cet homme est en train de s'aveugler lui-même. La Bible dit que c'est l'autre qui est reparti justifié, et celui-là, il est reparti comme il est rentré, c'est-à-dire il était pécheur en entrant, il est pécheur en sortant. Bien sûr, il n'a pas voulu voir la réalité en face. Vous avez vu dans Jean, c'est écrit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, un petit peu comme ce pharisien, il dit, nous séduisons nous-mêmes. Et qui est-ce qui fait l'œuvre de séduction? Qui c'est le séducteur? C'est le diable. Et en fait, celui qui refuse de reconnaître ses péchés, il fait l'œuvre du séducteur. Il se séduit lui-même, si bien que le diable n'a même pas besoin d'agir dans son cas de figure, parce qu'il est en train de faire le travail, cet homme, lui-même. Il est en train de se séduire lui-même en se disant que moi, je ne suis pas pécheur, moi, je suis un bon chrétien, je n'ai pas besoin de confesser des péchés. Vous voyez ? Donc, dans ce cas, l'ennemi, il laisse le travail se faire tout seul et il n'a rien à faire. Ainsi, la personne est tenue liée dans son péché et elle ne peut pas avancer dans la foi. Celui qui refuse de confesser son péché est même en danger. Quand on voit tout ce qui est mentionné, hein, on dit, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Et un peu en dessous, nous faisons Dieu menteur, sa parole n'est pas en nous. Vous vous rendez compte que celui qui refuse de confesser, il est en danger spirituel, parce qu'il est en train de s'opposer directement à Dieu. Même le Seigneur se retire de lui, sa parole n'est pas en nous. On fait Dieu menteur, on est ennemi de Dieu, donc on est en quelque sorte en train de revenir en arrière. Et puis je prends l'autre cas de figure, donc c'est au verset 9, celui qui confesse son péché. Les conséquences immédiates, c'est écrit dans le texte, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes purifiés de toute iniquité. Mais il y a une condition au pardon de Dieu, c'est la confession. Des péchés. Il y a bien le mot « si nous confessons nos péchés ». Ça veut dire que s'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de pardon. En fait, le pardon de Dieu, c'est un cadeau. On ne l'a pas mérité et on l'a par grâce. Dieu le donne, c'est vrai. On ne peut pas produire le pardon de Dieu par des œuvres, par quelque chose. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de confesser nos péchés. Et ça, c'est une exigence divine. Dieu nous dit, si tu confesses tes péchés, tu seras pardonné. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas pardonné. Donc la confession, c'est une exigence divine à notre égard. Et frères et sœurs, c'est notre part. Ma part, c'est de confesser mes péchés. La part de Dieu, c'est de me pardonner de toute iniquité. Amen. On va conclure. Vouloir retenir ses péchés, comme celui qui refuse de les avouer, c'est un petit peu comme vouloir s'agripper à un rocher qui est en train de couler au fond de la mer et qu'on ne veut pas lâcher et on va mourir avec. Par contre, celui qui confesse ses péchés a trois avantages. Premièrement, il se met en relation nette vis-à-vis de Dieu. Il est pardonné de ses péchés. Ensuite, il est net vis-à-vis des hommes parce qu'il a avoué sa faute, il a demandé pardon, s'est réconcilié. Et puis, il est net aussi, j'en ai parlé au début, devant les puissances spirituelles. Parce que tout ça, c'est dans le cadre de l'autorité spirituelle. Quelqu'un qui refuse de confesser ses péchés, via les puissances spirituelles aussi, elles le voient et elles ne le craignent pas. Par contre, quelqu'un qui vit selon la parole, qui est net devant Dieu, net devant les hommes, les puissances spirituelles, je parle des démons, de Satan et des choses occultes, elles le craignent parce qu'elles ressentent que celui-là, il a une autorité spirituelle que Dieu a placée sur sa vie. Comment faire pour confesser ses péchés ? Moi, je recommande de prier, bien sûr, et de demander à Dieu peut-être qu'il vous remette en mémoire s'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés, de prendre une feuille de papier et de les noter. Pourquoi ? Parce que ça aide à bien les cerner. Il nous faut confesser tous les péchés à Dieu, tout ce qu'on a commis. Et il y en a certainement qui sont passés comme ça parce qu'on a dit, Seigneur, allez, je te demande pardon pour tous mes péchés, vous voyez, d'une manière un petit peu collective, globale. Mais il y a des choses qui nécessitent un approfondissement et qu'on prenne le temps de les citer individuellement. Alors ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire. Et puis des fois, ça revient. Moi, ça m'arrive encore quelquefois de le refaire. Je le refais de temps en temps. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie, de me le montrer. Et ainsi, je le confesse. Et si on a fait du tort à quelqu'un, il est nécessaire de réparer la chose. Si, pour réparer, si c'est un vol, il faut restituer, bien sûr, on a dit tout à l'heure. Quand c'est possible, on m'a posé la question, oui, mais quand c'est pas possible. Enfin, ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour réparer, on doit le faire. Demander pardon aux personnes concernées, comme le fils prodigue a eu le courage de le faire. Voilà les quelques conseils dans la parole. C'était le premier aspect, la confession des péchés. On va prier un instant le Seigneur, que Dieu nous renouvelle, nous vivifie, nous montre l'importance de ces choses qui sont nécessaires dans notre vie, dans notre âme. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Nous savons que tu nous aimes comme un père aime ses enfants. Et tu veux le meilleur pour nous, et si ces choses sont dans ta parole, c'est parce que pour notre âme c'est bon, et nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous. Je te prie pour mon frère, pour mes sœurs, afin qu'ils prennent au sérieux cette parole de ta part, qui est la nécessité de confesser ses péchés, et de ne pas rester comme si de rien n'était avec un débit au niveau céleste, avec un problème de relation, avec un problème qui n'est pas réglé, résolu. Seigneur, montre-nous toutes choses et permets-nous d'avancer dans la lumière et dans la vérité. Nous ne devons pas craindre, Seigneur, la vérité. Nous savons que ta parole est la vérité et tu es la lumière. Tu veux que nous soyons la lumière du monde et nous voulons marcher dans la lumière. Bénis mon frère, bénis ma sœur et aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'Évangile, à te ressembler davantage, à avoir ce désir d'être pur, net devant toi et net devant les autres. De n'avoir quoi que ce soit à nous reprocher, Seigneur, devant ta face. Seigneur, tu es là, tu es avec nous, tu es en nous, et je te bénis pour ta parole. Amen.